Vous le savez peut-être, je viens de la banlieue. Et souvent, quand on parle de la banlieue, on parle d'un ensemble commun qui se ressemble. Alors qu'en réalité, évidemment, si on vient de Versailles ou si on vient de Saint-Denis, on est dans des réalités très différentes. Et même de manière plus précise, en réalité, à l'intérieur d'un quartier même, il peut y avoir 1000 réalités différentes. Et aujourd'hui, je reçois Makan Fofana, qui est un philosophe, designer, qui se décrit lui-même comme un apprenti marabout, qui est en résidence à la Gaîté Lyrique. Il est chercheur associé à l'Université Queen Mary de Londres. Il est le fondateur du laboratoire Hypercube. Il a écrit un ouvrage qui s'appelle « La banlieue du turfu ». Et avec Makan, on va parler justement des imaginaires autour de la banlieue et de la réalité aussi de la banlieue. Comment faire évoluer la réalité de la banlieue à travers les imaginaires. Vous verrez, Makan, il est extrêmement véhément, très motivé dans son discours et c'est hyper prenant du coup. Donc je vous laisse écouter cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Makan.
Bonjour.
Comment tu vas aujourd'hui?
Ça va super, et toi?
Ça va pas mal, merci. On va parler du futur des banlieues, des imaginaires en fait, autour des banlieues. Comment tu t'es intéressé à ce sujet-là? Alors d'abord peut-être ton histoire, je sais que tu viens de la banlieue, donc peut-être tu peux nous en parler.
Je m'appelle Makan Fofana, je suis écrivain, l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle « La banlieue du Turfu », édité chez Tana Édition en 2021. Je suis aussi artiste en résidence à la Gaîté Lyrique et j'habite dans un quartier qui s'appelle le Bois de l'Étang, dans une ville à La Verrière, dans les Yvelines. Et pour la question du turfu des banlieues, comment j'en suis arrivé à l'époque, c'est-à-dire il y a 5 ans, j'étais en stage à Station F et c'était considéré comme le lieu futuriste de la France qui allait faire émerger la Startup Nation et les prochaines licornes. Et chaque jour, j'avais besoin de faire à peu près 1h30 à l'aller pour rentrer dans ce futur. Et un jour, dans le train, je me suis dit, mais pourquoi j'ai besoin de faire 1h30 de trajet pour entrer explicitement dans le futur? Et pourquoi pas faire démarrer le futur à partir de mon bâtiment? Et qu'est-ce que ça donnerait? Et à partir de là, j'ai commencé à réfléchir sur la question du turfu des banlieues.
C'est hyper intéressant ce que tu décris, parce qu'effectivement, en plus, quand tu dis 1h30, c'est 1h30 aller, 1h30 retour,
oui.
J'imagine.
Oui.
Donc 3 heures de transport.
Oui.
Quoi. C'est quoi aujourd'hui, pour toi, l'imaginaire des banlieues? C'est-à-dire que, qu'est-ce que les... Je parle pas de ton livre, pour le coup, mais plutôt l'imaginaire collectif autour de la banlieue.
Alors, l'imaginaire collectif autour de la banlieue, pour moi, il s'est cristallisé dans un imaginaire qui s'est formé entre les années 80 et 90. Et cet imaginaire qui s'est cristallisé, on le retrouve pas mal dans les productions des artistes du monde hip-hop ou du monde du cinéma, mais pas seulement, aussi dans le quotidien des discussions. Alors, imaginaire, ce n'est pas image, parce que certains vont confondre bonne image des banlieues et mauvaise image des banlieues. Et les banlieusards ont l'habitude de dire au micro de journalistes, oui, vous avez une mauvaise image de nous, on partage une mauvaise image de nous dans les médias, mais c'est pas ça la question. La question, c'est comment moi je produis un imaginaire et des récits propices au développement du monde en général, mais des banlieues dans notre cas. Et pour cela, il faut être en capacité de pouvoir imaginer socialement, imaginer pour la société des futurs et des récits dans lesquels, en fait, la banlieue aurait de nouvelles aventures, développer de nouvelles utopies. Et ça, c'est une capacité que nous avons perdue en tant qu'être humain et qu'à travers ce projet, j'essaye de relancer.
Et d'ailleurs, quand tu dis ça, c'est intéressant parce que même l'image qu'on voit des artistes, que ce soit des chanteurs ou effectivement des documentaires ou des films, je pense à, tu vois, un vieux truc comme La Haine, ou, c'est des imaginaires qui sont assez, c'est pas dystopique, mais c'est pas positif, quoi.
Tout à fait. En fait, c'est ce que j'appelle, il y a deux choses. Il y a premièrement le réalisme. Les banlieusards ont intégré une croyance, à savoir que les autres ont envie de savoir leur vraie vie, la vie réelle et nous pensons que plus nous vendons de la réalité, plus en fait les gens vont dire « Ah oui, ben en fait ces gens ils vivent dans une situation difficile, il faut les aider. » Ce qu'on appelle le réalisme. Et le réalisme, il est valorisé depuis, on va dire, Victor Hugo et Les Misérables, je crois, au 19e siècle. Ça, c'est le premier pilier de l'imaginaire quartier. Son deuxième pilier, c'est c'est de vendre, entre guillemets, ce que j'appelle de vendre des narrations dystopiques, de vendre des récits qui sont plus noirs que noirs, qui sont plus noirs que la réalité, en pensant que, en fait, ceux qui vont regarder le film, ils vont être choqués. Donc, le but, c'est de choquer la France, le but, c'est de choquer le monde en montrant. En montrant la difficulté que c'est de vivre dans un quartier. C'est vrai, c'est faux. Ça ne correspond pas totalement à la réalité et à l'ensemble des expériences des habitants des quartiers. Et de deux, ça crée des dystopies qui se... Comment dire ? Des dystopies qui... On appelle ça des narrations... comment on appelle ça ? Des narrations autoréalisatrices.
Elles se nourrissent.
Voilà. À force de répéter, il y a des milliards d'albums qui parlent de « c'est la merde dans le quartier », ben ça devient la merde.
Et pour toi, c'est quoi là justement la réalité ? Parce qu'en fait, ce qui est assez intéressant, c'est quand les banlieues ont été créées, elles étaient assez futuristes. En fait, à l'origine, je veux dire, quand ça s'est créé, c'était une vision assez futuriste. Il y avait même, si je me trompe pas trop, des ascenseurs, ce qui n'était pas du tout le cas dans les appartements de Paris. Donc, c'était plus moderne finalement dans les banlieues versus Paris. Et enfin, alors du coup, ça a dérapé clairement. Mais c'est quoi pour toi la réalité des banlieues ? Déjà, il y a plusieurs réalités évidemment, mais
c'est important de le rappeler parce que moi, en tant que banlieusard, dans le récit collectif du quotidien, on ne m'a jamais dit que en fait les banlieues ont été un ancien futur et ont été une étape importante de la modernité. C'est pendant mes cours de design que je me suis intéressé à l'histoire du développement des quartiers populaires et en effet, il y a eu un moment précis, on va dire dans les années 50, après la guerre, il y a eu le grand froid et tout. Les premières banlieues sont des quartiers futuristes, modernistes, auxquels n'ont pas accès même la classe moyenne, même une certaine classe moyenne. Voilà, ça c'est important de le rappeler. Voilà. Ensuite, le fait que le projet est dérapé ou que le projet, il y a eu, enfin, on va dire que certaines banlieues sont rentrées dans une sorte de vétusté ou je sais pas comment dire, elles sont devenues vétustes. Ça ne veut pas dire que nous avons un ennemi. Ça veut dire que nous devons reprendre le projet et créer de nouvelles utopies et créer de nouveaux quartiers. Mais quand je parle de banlieue du futur, je ne parle pas seulement de l'aspect architectural, urbanisme, mais on pourra y revenir. Donc voilà, c'est important de dire que déjà, les quartiers étaient des turfus auxquels ont eu accès nos anciens, nos parents, et ça n'a pas été facile. Voilà, ça c'est le deuxième point sur lequel j'aimerais insister. Il y a des gens qui, avant nous, qui se sont battus pour qu'on puisse développer des quartiers populaires et des grands ensembles. Donc, il ne faut pas jeter... parce qu'on est bloqué dans le présent, on voit qu'il y a des difficultés, on oublie le passé et le futur. Non, les quartiers ont été, le développement des quartiers ont été acquis de haute lutte et ils ont été des futurs. Maintenant, qu'est-ce que la réalité ? En fait, la réalité, ça n'existe pas. Il n'y a pas une définition de la réalité, il y a plusieurs réalités. Bien sûr, il y a des réalités qui se concrétisent. Mais moi, ce que j'essaye de dire dans mon livre, c'est qu'en fait, c'est en imaginant... C'est en fictionnalisant que tu vas pouvoir réinventer la réalité, alors que la plupart des banlieusards croient, c'est une croyance. Hein. Ils se disent qu'il y a la réalité, je suis bloqué dans la réalité. Ou ils se disent, il y a la réalité, c'est l'économie capitaliste qui va m'aider à sortir de cette réalité. Non, c'est en imaginant d'autres réalités que petit à petit, tu vas pouvoir faire advenir de nouvelles réalités. Mais ça, c'est un aspect philosophique que les gens ont du mal à appréhender parce qu'en fait, on est ce qu'on appelle le présentisme. Les gens, ils sont bloqués dans le présent, dans le tout de suite. Et je le disais juste avant, la capacité humaine à fabuler est en train de diminuer chez les êtres humains et nous ne pensons plus à imaginer de nouvelles sociétés, à imaginer des choses qui ne servent à rien. Non, on passe notre temps à essayer de trouver des solutions dans un monde solutionniste où il faut de l'argent, de l'argent, de l'argent et encore de l'argent.
Et alors, je vais pas aller dans ton sens, mais du coup, je le fais exprès en même temps. Parce que moi qui viens d'une cité aussi et de la banlieue pareil, je sais aussi qu'effectivement, c'est moins facile, tu vois, les professeurs te donnent pas forcément toutes les chances, t'as pas forcément de rôle modèle, t'as pas forcément, tu vois, les livres, les musées, à la maison, etc., etc. Alors, ça dépend de tes parents, il y a plein de réalités. Donc, c'est vrai que, et puis même au quotidien, je vois mon frère, tu vois, qui est toujours, je vois bien, on a acheté un appartement en même temps, et le mien, il a pris de la valeur, le sien pas, enfin, tu vois, il y a quand même plein de réalités quand même qui... parce que lui, il a acheté du coup en banlieue et pas moi. Moi, j'ai acheté à Paris. Et du coup, je vois bien qu'il y a plein de réalités qui sont très différentes quand même aujourd'hui.
Alors, c'est travailler sur les imaginaires, ça ne veut pas dire ne pas travailler sur la réalité ou mettre de côté les questions de la réalité. Justement, c'est ça le truc, c'est de se dire en fait, il y a des réalités et des difficultés qui se présentent à nous. Mais je le répète, des réalités et des difficultés qui se présentent à d'autres personnes, sur d'autres personnes dans le monde, les problèmes font partie de l'existence. Même quand la banlieue du Turfu va se réaliser un jour, il y aura encore d'autres problèmes. Donc le problème, c'est de se dire il y a toujours des problèmes et je suis bloqué dans les problèmes. Non, non, non. En effet, il y a des obstacles dans le développement humain, dans le développement de notre bonheur, etc. Mais justement, c'est l'imaginaire, travailler sur des solutions pensées de manière collective qui vont pouvoir répondre aux problèmes que tu as cités par rapport... en fait, si au niveau de l'éducation, il y a des difficultés à émerger, bah, du coup, on va penser l'éducation. S'il y a des problèmes au niveau... s'il y a des problèmes au niveau des appartements, le tien a plus de valeur que le mien, etc., ben, on va se mettre à essayer de réfléchir collectivement, à imaginer des solutions. L'imagination est au service du réel et au service des problèmes du réel. C'est juste que ça change la posture. Mais ça ne veut pas dire qu'on efface tous les problèmes du quotidien. Et d'ailleurs, moi, je suis le premier à... Je vis encore en banlieue, j'ai encore des problèmes. Et je peux vous dire que les problèmes que je vis ne sont pas uniquement des problèmes institutionnels, mais des problèmes que nous développons nous aussi eux-mêmes au sein du quartier. Nous avons nos propres problèmes que nous développons par le fait que nous avons du mal à vivre en collectivité.
Y a un truc, moi je suis très à l'aise avec cette idée d'imaginaire, parce que j'en parle régulièrement. Je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent le sont, mais effectivement, moi je considère que quand tu disais le réel n'existe pas, je suis très aligné avec ça, et effectivement, enfin... toutes les croyances qu'on peut avoir, elles sont voilà, enfin tout le monde dans lequel on vit finalement, c'est que des croyances. Est-ce que tu peux nous expliciter pour toi, c'est quoi les imaginaires?
Oui, c'est important parce que c'est l'imaginaire, on peut tout y mettre dedans. Et là, je vais vous partager une définition et une intention. Alors, c'est la définition de Anne-Françoise Garçon, historienne des techniques et de l'innovation. Elle dit que l'imaginaire est le fruit de l'aptitude humaine à mettre ses pensées en images, en mots et en actes. L'imaginaire est ce lieu où s'esquissent et s'engrangent les rêves, les idées, les fantasmes individuels et collectifs. Voilà, moi ce que je dis quand je parle des imaginaires, c'est que c'est un espace où on va pouvoir imaginer des collectifs, et, où on va pouvoir faire collectif et imaginer de nouveaux futurs. Mais après, il y a un gros boulot hein, au niveau du, comme tu parles du concret, ça ne veut pas dire que c'est la fin. Voilà. Il y a encore beaucoup de réflexion, mais je tiens quand même à préciser que c'est quand même le début du projet. Et pour continuer à affiner un peu ce que je voulais dire, sauf que pour repenser le monde, pour réinventer le présent, pour actualiser le futur, il faut être capable d'imaginer. Le designer et l'homo banlieuticus, qui est un designer, tu es un designer, est un être qui a des idées autant qu'il a des rêves. Il se nourrit de l'esprit du temps, des mythes, d'utopie, et il cherche à engendrer de nouvelles sensibilités, de nouveaux récits, de nouveaux scénarios de vie. Voilà, et ça, moi, c'est la question que je pose aux banlieusards. Je ne dis pas que dans les imaginaires, il y a réponse à toutes les solutions. Je dis que, est-ce que on a déjà commencé ensemble cette démarche collective d'imaginer des futurs désirables et écologiques pour nous-mêmes?
Et alors, j'ai deux questions, mais je vais les poser une après l'autre parce que sinon, on va se perdre. Mais la première, c'est quoi pour toi les imaginaires positifs qu'on peut envisager autour de la banlieue? Donc, c'est quoi la banlieue du Turfu, quoi, finalement? Et je te poserai la deuxième après.
Alors, il y a deux choses. Le projet de la banlieue du Turfu, moi, j'aime bien donner cet exemple. C'est un peu... C'est pas vraiment ça, mais j'aime bien donner cet exemple pour aider les gens à concrétiser ce que c'est l'imaginaire. C'est le Wakanda. Voilà. Vous avez un auteur qui, dans un film de science-fiction, établit une société africaine avec certaines valeurs, avec certaines manières de fonctionner, avec un certain style de vie, des vêtements et de gastronomie. Voilà. Ça c'est la métaphore que j'aimerais appliquer au banlieue du Turfu, un système ou une ville où nous pourrions être à l'origine d'institutions, où nous pourrions développer la 6ème République. Enfin, l'idée de 6ème République me plaît beaucoup. 6ème République du Turfu, mais on pourra y revenir. C'est ça, là, voilà, c'est ça, c'est de se dire, est-ce qu'on peut développer des Wakanda? Et quand je dis on peut développer des Wakanda, ça veut dire que le Wakanda de mon quartier ne sera pas le même que le quartier d'en face. Parce que j'ai pas eu le temps de le dire, mais bien sûr, les banlieues, il y en a partout dans le monde et en France. Il n'y en a pas que en France. Et chaque banlieue est différente des unes des autres. Donc, leur réalité est différente des unes des autres. Mais malgré tout, il y a quand même des points communs. Voilà un peu ce que c'est l'idée de banlieue du Turfu. Maintenant, plus concrètement, moi, si je vous développe mon projet, on va dire, pas mon quinquennat, mais ce que pourrait être la banlieue du Turfu en 10 points, c'est que, un, c'est déjà un projet de société qui concerne la vie dans les grands ensembles, mais pas seulement. Mais en tout cas, c'est le point de départ. Ensuite, c'est un projet intellectuel, et je le précise, oui, je suis un écrivain philosophe, parce que certains, parfois, se disent « Ah, mais c'est très intellectuel, votre projet. » Ça veut dire quoi? On ne peut pas être un intellectuel des banlieues? Ça veut dire quoi qu'un projet des banlieues doit toujours être concret pour résoudre le chômage? Moi, en tout cas, je tiens ma position intellectuelle de ce projet, et je tiens cette position philosophique qui fait partie intégrante du projet. On l'a dit, c'est un projet qui pense à partir des imaginaires, qui cherche à inventer aussi une éthique et une responsabilité, c'est-à-dire que c'est à moi de définir ce qu'est la banlieue. Et moi, ma définition des banlieues n'est pas la même que la vôtre, et je vais vous la donner. Pour moi, la Terre est une banlieue, tout simplement, parce que au niveau physique, je crois même que la Voie lactée est une banlieue, en fait, tout simplement. Et donc, du coup, tu es un banlieusard, toi aussi, et vous êtes tous des banlieusards. Donc, j'ai réfléchi sur ce qu'est un banlieusard. Je donne ma propre définition. Ensuite, j'expérimente. J'ai pas les réponses à tout, mais j'expérimente, je fais des laboratoires, je propose aux personnes de venir réfléchir. On a inventé l'internet des chichas, on a inventé le kebab symbiotique, on a inventé l'agora vert. Bref, vraiment, c'est un monde, c'est comme un univers qui se déploie. On travaille aussi sur la question écologique, la question du vivant, de notre rapport au vivant. C'est aussi une question politique, une question territoriale, une question industrielle, une question de design. On n'aura pas le temps de tout traverser aujourd'hui, mais là, c'est pour vous montrer l'étendue du projet dans la banlieue du Turfu. Aujourd'hui, j'en ai réalisé que 10%, mais il reste encore des choses à venir.
Il y a une remarque que tu faisais, et c'est vrai que j'aurais dû le faire moi-même, mais quand on parle de banlieue, il y a effectivement plein de réalités, parce que si tu vas à Versailles, qui est aussi une banlieue, c'est pas la même chose que si tu vas à Saint-Denis ou si tu vas à, je sais pas, au Pierrefitte ou Saint-Ville ou je ne sais où, quoi.
Tout à fait.
Sergi-Pontoise.
Quand j'ai commencé le projet, le terme banlieue, j'y ai réfléchi pendant des semaines, voire des mois, parce que c'est un mot un peu dangereux, c'est un mot un peu, c'est un piège un peu. Donc je me suis dit, est-ce que je garde le terme banlieue ou pas? Parce qu'il y a, déjà un, je tiens à préciser que moi, je suis en banlieue, mais j'ai pas la même expérience que mon voisin de palier. Et je tiens aussi à préciser que là, aujourd'hui, actuellement, je suis en marge de la marge dans mon banlieue à cause de certaines de mes idées. Je suis marginalisé. Voilà. Donc, je suis encore en banlieue de ma banlieue. Mais effectivement, ce que je tiens à dire, c'est que là, ma parole, vous ne pouvez pas prendre ma parole comme une parole sur les banlieues, parce que je sais à quel point je suis différent de plein de banlieusards et à quel point plein de banlieusards sont différents de moi. Alors, on a parlé des modèles. Moi, je pense que c'est faux, qu'il y a beaucoup de modèles, il y a même trop de modèles. Chaque année, il y a des centaines de banlieusards qui réussissent. Seulement, le problème, c'est quoi? C'est que, un, ils intègrent le système, ça c'est un. Deux, on ne les entend pas forcément parce qu'ils sont bien intégrés dans leur nouvelle vie. Et trois, en fait, c'est comme le quartier s'appauvrit. À chaque fois qu'il y a un banlieusard qui réussit, il quitte le quartier. Et l'une de mes premières réflexions, c'est de se dire, il va falloir qu'on arrête de quitter le quartier un jour, même si on est milliardaire. Même si on est millionnaire, il va falloir se dire « je reste au quartier pour réinvestir à tous les niveaux » et il va falloir se dire que on ne va pas pouvoir continuer à fuir les quartiers pour un oui ou pour un non. On peut le faire de manière individuelle. Bien sûr, si tu me poses la question individuellement, je te dis « oui, ben c'est pour des tas de raisons que tu vas me sortir, quitte le quartier ». Mais au niveau collectif, c'est inacceptable de continuer sur ce récit collectif et continuer sur le fait qu'il faut quitter les quartiers et accomplir ses rêves ailleurs. Si on le fait, ce sera une catastrophe et ça va continuer à être une catastrophe pour les quartiers dans le futur.
En fait, ce que tu dis, toi, c'est que l'émancipation, elle ne doit pas se faire à l'extérieur.
L'émancipation ne doit pas se faire à l'extérieur. Même si tu me dis, oui, il faut que je...
Parce qu'en fait, une heure et demie de train.
Ouais, voilà, exactement. En fait, il y aura des contraintes. Mais contraintes-là, je peux t'assurer que n'importe quel individu ou n'importe quelle société qui a voulu développer une utopie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la démocratie que nous vivons avec ses défauts, aujourd'hui, la France que nous vivons avec ses défauts, aujourd'hui, les sociétés occidentales que nous vivons avec ces défauts, elles ne se sont pas construites en un jour, elles ne se sont pas construites comme ça rapidement. Il y a eu des luttes. Donc dis-toi, quand je te dis de réinvestir dans la banlieue, ça va être chaud, ça va être difficile, mais tu dois être un pionnier, on doit être des pionniers, sinon ça ne va jamais se faire. Mais effectivement, tu auras toujours des raisons pour quitter la banlieue, parce que c'est loin, parce que c'est proche de ton travail, parce que tu as des problèmes. Mais si on continue sur cette logique, Justement, c'est pour ça que l'imaginaire est intéressant. L'imaginaire dépasse la logique. Et si on reste sur cette logique, il n'y aura jamais, jamais de banlieue du turfu.
T'as pris plein d'exemples tout à l'heure sur la réinvention des banlieues. Est-ce que tu peux en développer un ou deux? Je sais pas, t'as parlé d'industrie, entre autres, ou de tissu industriel, de mémoire?
Oui. Donc, en fait, La banlieue du turfu, c'est un livre. À partir de ce livre, j'ai développé un laboratoire qui s'appelle l'Hypercube. Pourquoi? Parce que je savais que c'était un projet qui allait prendre du temps, court, moyen, long terme. C'est un. Deux, que je devais le faire de manière collaborative. Et trois, qu'en fait, la banlieue de mon voisin n'est pas celle de l'autre. Donc du coup, à chaque fois que je visite un quartier, il faudra retravailler sur ce qu'est la banlieue de Turfu, on va dire, au niveau local. Voilà. Et ensuite, dans ces ateliers, il y a des choses intéressantes qui sortent. C'est la question de le kebab symbiotique. C'est comme on va beaucoup au kebab, et que le kebab est un, on peut dire, c'est un archétype, c'est un cliché que j'essaie de réinventer. Moi, je pars toujours du quotidien, pas forcément des trucs très élaborés. Donc qu'est-ce que peut être un kebab réinventé qui a une nouvelle fonction, qui n'est pas seulement de manger, mais de penser l'écologie et le développement de l'écologie au niveau quartier. L'internet des chichas, c'est le lieu où on prendrait des décisions politiques pour répondre à nos propres problématiques, et cela de manière rapide. Par exemple, il y a eu un débat sur la question des paris sportifs où certains banlieusards ont remarqué que les pubs utilisent beaucoup la culture quartier pour vendre leurs paris sportifs. On a dit à l'État d'intervenir. Moi, je dis non, c'est pas à l'État d'intervenir, c'est à nous de nous réunir dans l'internet des chichas, je sais pas où vous voulez, et de répondre à la question. Et ensuite, pour revenir à la question des industries, c'est que il faut un modèle économique à la banlieue du Turfu. C'est pas moi, en tout cas, moi je suis pas pour le modèle des subventions, en tout cas pas totalement. J'ai pas encore de réponse définitive sur la question des industries, mais je cherche en effet à développer une industrie qui pourrait soutenir le développement de la banlieue du Turfu pour éviter qu'on soit dépendant des subventions.
Ça fait penser, pendant des années, il y a eu cette croyance. Ouais, je pense que c'est mon croyance, que Uber, justement, c'était ça. C'est-à-dire que ça, en fait, ça permettait de faire bosser les banlieusards, etc. Bon, je ne pense pas que ce soit ça que tu penses. En tout cas, on a bien vu que ça avait quand même énormément de limites, ce système. Parce que ça, c'est où, tu vois, je parle de Uber, mais ça peut être les livreurs, des livreaux, je ne sais quoi, avec des jobs qui sont pas très bien payés. Enfin voilà, c'est pas forcément l'imaginaire dans lequel t'as envie de te projeter, parce que là, c'est de la commodisation de services, mais au prix d'une, c'est pas de l'esclavagisme, on va pas aller jusque là, mais il y a une forme, c'est pas de l'esclavagisme social, mais il y a quand même ce truc, enfin je sais pas comment l'exprimer, mais Tu vois ce que je veux dire?
Oui, j'ai tout à fait compris. Vraiment, c'est pas ça que je voulais dire. Et au contraire, moi, je pense que on devrait pas attendre à chaque fois des super-héros. Ah oui, Uber, grâce à Uber, on peut faire les jeunes de quartier vont pouvoir trouver du travail et être autonomes et être indépendants. Pour moi, il y a aucun super-héros qui doit venir sauver les banlieusards, si ce n'est les banlieusards, par leur intellect, leur créativité et leur capacité à développer des projets. Donc, c'est vraiment pas ça que je voulais dire. Mais par contre, je ne peux pas nier que dans mon quartier, quand tu posais la question, en tout cas pas au début quand Uber s'est lancé, quand tu posais la question à un jeune de quartier, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est lancé dans le business de Uber, ça a bien marché. Voilà, je peux pas le nier. Et une fois j'étais dans le train, j'ai fait une expérience. Il y a un gars on s'est rencontré dans le train, on a commencé à en parler. Je me souviens plus, il vient de quel quartier. J'ai commencé à lui parler des imaginaires et tout. Je dis, c'est quoi ton là, tu veux faire quoi comme projet? Il m'a dit, je veux devenir chauffeur Uber. Donc, on peut pas nier que, une partie des habitants se sont engouffrés pour plein de raisons. Moi, je vais donner un autre exemple. Quand je dis qu'on a développé l'Agora Vert, l'Agora Vert, c'est quoi? C'est le concept du métavers. Aujourd'hui, le métavers est un concept qui est réapproprié par les grandes industries, Facebook, les GAFA de manière générale.
Faut que tu expliques ce que c'est qu'un métavers. Hein.
Un métavers, c'est considéré, pour aller vraiment vite, c'est considéré comme le futur d'Internet ou le web 3.0, à savoir que dans un futur proche, on n'aura plus besoin pour aller sur Internet de passer par nos téléphones, etc. Mais on sera directement dans un monde virtuel où on pourra aller au centre commercial directement acheter des trucs. Ça, c'est la vision du métavers des grands groupes et des gros groupes. Nous, on s'approprie la question des métavers à partir des banlieues et comment. À la base, le métavers, il appartient pas au GAFA, c'est un romancier qu'il a inventé un peu par hasard, dans un roman un peu par hasard. Ça, c'est important de le dire. Et de deux, on passe 8 mois dans nos ateliers à re-questionner la question des métavers et qu'est-ce que ça peut apporter à la question des banlieues. Et donc, du coup, si demain, on devait faire en tant que industrie développer un métavers des banlieues, bien sûr que celui-ci ne ressemblerait absolument pas à celui de Uber ou à celui de
Facebook,
Facebook, parce qu'il prendra en compte dès le début les problèmes, les rêves, les appétences, les désirs des habitants des quartiers. Mais il n'en reste que moi, en tant que, on va dire, moi je me considère comme l'architecte de la civilisation ou un architecte de la civilisation ou un architecte de la banlieue du Turfu, à un certain moment, on va devoir développer une économie pour faire vivre cette banlieue du Turfu. Et donc, la question de l'industrie va se poser, la question du travail va se poser. En tout cas, si on veut sortir du modèle des subventions et du tout subventionné.
D'ailleurs, il y a eu cette discussion pendant le Covid de se dire, finalement, les gens vont... Il y a eu beaucoup de télétravail. Et il y a eu cette question de pourquoi on fait pas, pourquoi les gens viennent à vraiment... Parce que, en plus, ça crée des bouchons phénoménales. Pourquoi les gens viennent à Paris pour bosser alors qu'en fait, pour la majorité, pas tous bien sûr, mais pour une grande partie, ils pourraient bosser depuis là où ils sont finalement, ou en tout cas de créer des espaces de coworking dans les gares par exemple, dans les banlieues, ce qui éviterait de faire des allers-retours inutiles qui sont fatigants déjà pour les gens et puis qui génèrent de la pollution par ailleurs.
Le Covid, c'est vraiment très intéressant parce que, au niveau des imaginaires, au niveau des imaginaires des banlieues, il change toujours pas le récit. J'ai vu d'articles passer en disant oui, le Covid, pour des raisons techniques factuelles, a beaucoup plus d'impact dans les quartiers, il faut les aider. Ouais. Bref, c'est le récit misérabiliste comme quoi on a toujours besoin d'aide et le Covid va dans ce sens-là. Ensuite, moi, j'ai lu un auteur avant le Covid qui disait que le futur de manière globale se développera dans les périphéries. Et c'est exactement ce qu'on a vu pendant le Covid. Parce que les gens ont fui, pour ceux qui avaient l'argent et les moyens, ils ont fui dans toutes les périphéries françaises, en Bretagne ou je sais pas où. Tout le monde a fui la capitale tout d'un coup. Et ça, c'est un récit intéressant pour justement se dire, on n'a pas forcément besoin et la vie à Paris n'est pas forcément si bien que ça. Mais le problème, c'est que les banlieusards idéalisent le centre, c'est ça aussi. Le centre, c'est la Tour Eiffel, c'est PNL qui monte sur la Tour Eiffel. Il y a ce côté un peu, on est trop attaché en fait au centre. C'est ça qu'il faut dire. On idéalise trop le centre, alors qu'il y a plein de gens qui, dès qu'ils peuvent, ils quittent Paris. Mais ça, on le voit un peu plus chez les personnes à tendance écologique, qui pour moi sont déjà dans le turfu, parce qu'ils sont déjà en train d'essayer de construire leur vie en dehors de Paris. Après, moi, ma banlieue, c'est pas Saint-Denis. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que moi, pendant le Covid, moi, j'étais dans ma banlieue. En fait, ma banlieue, elle est très verte, en fait. Et donc, du coup, quand j'étais confiné, j'étais pas confiné chez moi dans mon bâtiment, j'étais confiné, en fait, dans le quartier. Et donc, je pouvais descendre dehors, marcher, voyager. Alors que si t'es dans le 93, j'imagine qu'en fait, le confinement, en effet, il a été un peu moins agréable. Mais moi, dans ma banlieue, le confinement a été plutôt agréable parce que j'habite dans un endroit vert. Et je tiens à préciser, il y a déjà plein de quartiers verts en France, mais c'est pas ce qui remonte au niveau des imaginaires, c'est pas ce qui remonte dans les films, c'est pas ce qui remonte dans la parole, des propres habitants, en fait.
C'est assez juste, ça, parce que c'est vrai que quand on parle de banlieue ou de cité, on n'imagine pas du tout des forêts, en fait. Enfin, tu vois, on a tendance à opposer, d'ailleurs, parce que, a priori, les cités, c'est plutôt des grands bâtiments, tu vois, des tours, finalement. Et on l'associe assez peu avec du vert et de la forêt.
Malheureusement, c'est faux. Moi, mon quartier s'appelle le Bois de l'Étang. Voilà, il n'y a pas meilleur exemple. Il s'appelle le Bois de l'Étang. J'habite proche d'un étang et proche d'une forêt. Ça fait partie de mon quartier. La forêt, elle est en face de moi. L'étang, il est en face de moi. Mais jamais j'ai entendu... En fait, avant le confinement, moi-même, je ne voyais plus le vert. C'est pendant le confinement, je suis descendu, j'ai commencé à prendre des photos de mon quartier. Il est, excusez-moi, magnifique. Je peux vous montrer les photos.
Pas besoin de s'excuser.
Il est magnifique. Le problème, c'est quoi? Les rappeurs de mon quartier ne le chantent pas. Les films comme La Haine ou Les Misérables ne le montrent pas. Les quartiers verts, en fait, à la base, même quand on a commencé à développer les banlieues en France, on voulait une expérience différente des banlieues américaines. Donc, la prise en compte de l'écologie dans le développement des quartiers populaires, elle s'est faite tout de suite, rapidement, dans certains quartiers de France. Maintenant, quand on va dans Paris, dans 93, c'est tellement dense que c'est un peu plus difficile. Et d'ailleurs, on a fait un atelier à Sarcelles sur le futur des banlieues. Et il y a des participants qui ont exprimé le souhait que leur quartier soit plus vert. Pour eux, le futur de leur quartier, c'était un quartier plus vert. Mais moi, c'est déjà mon passé. Puisque moi, mon quartier est déjà vert depuis des années déjà. Il y a plein de quartiers en France qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on voit dans Les Misérables ou dans La Haine ou dans Bac Nord ou je sais pas quoi. Mais malheureusement, ce qui choque, ce qui marque l'imaginaire, c'est plutôt ces images et ces récits-là.
D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure, il y a plusieurs trucs. C'est quoi la réaction des personnes qui viennent dans les ateliers? Est-ce qu'ils sont en résistance? Ou est-ce que plutôt, ils se disent « Attends, mais en fait... Effectivement, t'as raison, on peut réinventer ces imaginaires. » Parce qu'en fait, c'est des concepts qui sont, t'as raison, hyper intellectuels, les imaginaires. Et il faut quand même s'y frotter un petit peu, on va dire, pour pouvoir appréhender le sujet quoi, de l'imaginaire. C'est toujours un peu choquant quand tu dis aux gens, mais en fait, tout ce que tu crois, c'est l'imaginaire, ce que t'as sur ton compte en banque, ce que, tu vois, les codes entre nous, enfin, tout est imaginaire. Mais du coup, comment ils réagissent dans les ateliers?
Je pense que c'est vraiment choquant, comme tu le dis, hein, franchement, c'est choquant. Alors, il y a deux choses. Il y a mon univers personnel qui est en effet empreint de philosophie, de réflexion, de théorie, de concept, mais il est aussi empreint de langage, d'idées que j'ai pris pas seulement à la philosophie, mais à la culture quartier, à la culture musulmane. Par exemple, on a créé un espace numérique qui s'appelle le Firdaus numérique. Donc, est-ce que le Firdaus numérique, c'est intellectuel parce que les gens de mon quartier ne s'intéressent plus à leur culture? Je ne pense pas. Mais si c'est ça que vous pensez, ben ça c'est votre problème. Si moi je valorise mon patrimoine à travers des concepts anciens comme la magie, le marabout, d'une certaine manière, mais que les gens autour de moi ne le mobilisent pas, ben en fait c'est pas mon problème. Moi je développe mon univers. C'est comme une journaliste qui me demandait si c'était pas un peu aberrant de parler de métavers dans les banlieues lorsque il y a des banlieues où il y a pas de d'ordinateur ou où il y a pas de d'espace numérique pour développer ces jeux. Est-ce que moi je dois m'empêcher de penser parce que quelque part dans une banlieue, il y a un individu qui ne s'intéresse pas à la philosophie. Même si tous les banlieusards ne veulent pas s'intéresser à la philosophie, j'en ai rien à foutre. Je le ferai et je le ferai jusqu'à ma mort. Ça, c'est un, le, par rapport à. Voilà, je serai intellectuel jusqu'à ma mort, même si tous les banlieusards le refusent, même si tous les banlieusards ne sont pas intéressés, ce n'est pas mon problème. Je prends ma vie en main comme je le souhaite et comme je l'entends et je définis ce qu'est une banlieue, comme je l'entends et comme je le souhaite, sans prendre tout le temps l'avis des gens. Par contre, en atelier, on concrétise ce côté conceptuel et imaginaire, mais c'est vrai que il y a un petit gap. Il faut rentrer dans l'univers, c'est vrai. Il y a un petit...
Eh ben oui, quand même.
Ça, je l'ai remarqué. C'est-à-dire que tu viennes de banlieue ou pas, il y a un peu un sas, un vortex. Et voilà, la plupart des gens le prennent. Voilà, je vais dire la vérité. La plupart des gens... Putain, quand ils sortent d'un atelier, ils sont choqués. Ils disent, ah ouais, putain, vraiment, tu m'as ouvert les yeux, etc. Mais il y en a qui ont du mal à rentrer dans l'univers. Voilà, ça c'est, voilà. On va dire 20% ont du mal à rentrer dans l'univers parce que les a priori, parce que c'est difficile, parce qu'il y a des idées, parce qu'il faut un peu se rebooter, c'est vrai. Mais la plupart des gens que j'ai rencontrés, et c'est ça qui me rend fier, c'est une fois qu'ils sont tombés dans le trou d'Alice au Pays des Merveilles, ils ont dit, ah, c'est bon, j'ai compris ce que tu voulais me dire, etc. Mais c'est vrai, t'as raison, il y a un petit sas, un petit vortex à passer.
Mais du coup, ils font de tes concepts, parce que c'est des concepts, une réalité. C'est-à-dire, enfin, je sais pas si à leur niveau, après les ateliers, de manière très concrète, ils font des choses qui transforment justement.
Alors oui, ça c'est une très bonne question. Donc l'idée normalement du laboratoire, c'est que à partir des concepts et des productions des ateliers, les gens reprennent en fait les choses pour faire leur hypercube et leur laboratoire et leur banlieue du turfu au niveau local avec ou sans bois. pardon, avec ou sans moi. Si tu veux le faire sans moi, bah, on va dire, c'est, les premières productions étaient open source. Voilà. Moi, j'ai pas gagné d'argent. On m'a pas payé. En tout cas, pendant 3 ans. Ma première subvention, je l'ai reçue au bout de 3 ans. Et encore, c'était pas beaucoup. C'était un fonds allemand. Mais moi, j'ai passé 5 ans à faire la banlieue du turfu pour toi, de manière gratuite. Et même, je vais dire la vérité, je me suis endetté pour faire une école de design. Je peux pas faire plus. Je peux pas faire plus. Franchement, je peux pas faire plus. Je peux pas aussi faire en sorte que les gens sur au niveau territoire, en tout cas avec l'argent, le pouvoir que j'ai, je peux pas le faire. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de reprise de la banlieue de Turfu. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de reprise par quelqu'un d'autre de la banlieue de Turfu en 2022 dans un autre quartier, pour être sincère. Il y a des idées, des discussions pour dire que, en fait, on a développé un concept qui s'appelle la Beit al-Hikma, qui est la maison de la sagesse en arabe. Il y a des discussions avec des personnes pour reprendre la continuité. Voilà. Ça, c'est l'aspect collaboratif. Maintenant, moi, bien sûr que le projet se concrétise pour moi. On va développer des ateliers du turfu au niveau européen, en Finlande, en Italie. On va être en Allemagne pour un festival d'art pour présenter l'Internet des chichas. On va aussi on a commencé à discuter avec Epic Games pour développer un programme. Franchement, moi, le message que j'envoie aux banlieusards, c'est que ce qui était imaginaire et en train de devenir réalité. Ça, c'est une première chose. Et avec le temps et la patience, bien sûr, et l'accompagnement et la volonté, mais pas que. Et de deux, en effet, ça prend du temps entre le moment où tu développes l'utopie, l'imaginaire, et le moment où ça se réalise. Mais ça, c'est pas moi seulement. C'est-à-dire entre le moment où on imagine la première fois où on peut voler, et le développement des premiers avions, il y a des siècles qui passent. La première fois où on imagine la démocratie, les premiers penseurs, les premiers philosophes de la démocratie, de la République, entre le moment où ils pensent et où ça se réalise, il y a des siècles qui passent. C'est pas que moi, c'est civilisationnel. Entre le moment où des premières personnes se révoltent contre un système en place ou contre une manière de faire et se disent « moi, je vais faire différemment », souvent, il y a des centaines d'années qui passent, voire des milliers d'années qui passent entre le moment où on a pensé où ça se réalise. Donc, si j'ai pas pu développer la banlieue de Turfu en vrai en 5 ans, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Voilà, je fais ce que je peux. Voilà.
Et on dit beaucoup en ce moment que la société occidentale, justement, elle est en train de s'effondrer un peu. Est-ce que c'est pour toi un bon moment pour justement accélérer sur ce projet? Est-ce que tu penses que ça rentre à l'intérieur? Est-ce que ça vient sur le côté? Comment tu l'envisages par rapport à, tu vois, l'effondrement des valeurs sur l'individualisme, justement des croyances, hein, individualisme, progrès, être centré sur l'industrie, sur toutes ces choses-là? Tout ça, c'est en train de s'effondrer un petit peu. Comment tu positionnes ton projet à l'intérieur de ça?
Bah justement, comme on le disait un peu en off, moi, mon rapport à l'effondrement, il n'est pas le même rapport que, on va dire, je dirais pas une classe bourgeoise, parce que je sais pas si ça existe encore, mais en fait, quand t'as de l'argent, ton rapport à l'effondrement, il est pas le même que quand t'as pas d'argent. Moi, j'ai pas d'argent. Et donc, pour moi, l'effondrement est une opportunité. Avant de répondre concrètement à l'opportunité par rapport à l'effondrement, moi, j'ai fait il y a un an, j'ai interrogé un architecte, nigérien sur les futurs, sur son projet, etc. Et il m'a dit, vous, en Occident, vous développez beaucoup de dystopies. Mais sachez que moi, j'ai pas l'occasion de développer des dystopies. Ma vie, elle est déjà tellement difficile.
Elle est dystopique, quoi.
Elle est déjà dystopique. Je peux pas me permettre, comme vous, de développer des dystopies, des zombies, etc. Mais en Occident, on peut se permettre. C'est ça qu'il faut se dire. On peut se permettre de développer des films avec des zombies, des morts, des effondrements, parce qu'on est déjà quelque part bien. Et moi, c'est pareil pour ma vie au quartier. Elle n'est pas aussi difficile que vivre dans une banlieue en Afrique, par exemple. Mais moi, je ne peux pas me permettre de commencer à imaginer des effondrements, c'est la fin, faire peur au monde, etc. Je ne peux pas me le permettre. Je suis obligé de voir l'effondrement comme une opportunité pour des industries de disparaître, de voir l'effondrement comme une manière de faire société qui va disparaître, une manière de faire politique, et moi, d'engouffrer le projet de la banlieue de Turfu comme un centre au final. Et c'est pour ça que j'ai dit, la banlieue de Turfu, je suis architecte de la civilisation ou des prochaines civilisations. Moi, je ne suis pas là seulement pour réparer les banlieues entre nous, tout ça. Mon ambition est grande et l'ambition du projet est grande, et de se dire, s'il y a effondrement, comment moi, en tant que banlieusard, je participe au renouvellement de cette société, au renouvellement de cette civilisation, et comment je fais que
je suis force de propos, de proposition à la fois pour mon quartier, mais pour le monde et pour l'humanité. Si moi je développe une solution qui fonctionne uniquement dans mon quartier et pas dans la ruralité et pas dans d'autres pays, ça ne sert à rien. Donc du coup, l'effondrement pour moi, bien sûr, il y aura des dommages, des difficultés, de la souffrance, mais quand même, pour moi, c'est l'occasion de rebattre les cartes et pour nous d'écrire une nouvelle histoire et une nouvelle grande histoire.
Et tu parlais tout à l'heure de 6ème République. Oui. Pourquoi tu parlais de ça?
Je parlais de 6ème République parce que après ces 5 ans de recherche, de réflexion, de travaux sur les imaginaires, il y a pas mal de choses qui ont fonctionné, qui ont marché, mais de manière autocritique, il y a un point qui pour moi n'est pas encore, il y a un point que j'ai posé dans le livre qui n'est pas encore assez saillant, c'est le projet politique, la banlieue du Turfu en tant que projet politique. Alors, je pense que durant ces 5 ans, j'ai passé beaucoup de temps à accompagner les autres, à développer leur imaginaire, à se sentir plus libre, etc., et moins de temps à développer un projet politique. Et donc, du coup, j'ai envie, à partir de la rentrée 2022, de mettre en avant cette question de la 6ème République. Et pendant les présidentielles, en fait, je lisais, j'ai lu tous les programmes et je suis tombé sur cette idée de Mélenchon de 6ème République. C'est une idée que, en fait, il y a pas mal de banlieusards qui ont voté pour Mélenchon, mais pas forcément à cause de son programme ou pas forcément à cause de la 6ème République, mais à cause de son éloquence, etc., de son rapport à l'islam. Moi, personnellement, ce que j'ai retenu chez lui, c'est l'idée de 6ème République et donc, du coup, de repenser la constitution française et donc, du coup, de recréer une nouvelle assemblée. Mais ça, c'est une idée turfuriste. Donc, on est là, on critique la France, ça va pas bien. Du coup, si on refonde une 6ème République... En fait, on n'était pas là, les banlieusards, quand ils ont fait la 1ère, la 2ème, la 3ème, la 4ème, 5ème République. Là, on est là pour fonder la 6ème République. Et là, c'est pour affirmer le projet politique de la banlieue du Turfu. Bien sûr, qui est à faire, hein, je n'ai pas encore tout pensé. Mais c'est pour dire qu'après ces 5 ans de travaux sur les imaginaires, je reste un peu sur ma faim sur la question politique. Et je trouve que la 6ème République du Turfu est une nouvelle piste pour moi et pour les autres.
Est-ce qu'on parlait tout à l'heure des imaginaires qui sont projetés par... Les chanteurs, les films, etc. Est-ce que tu travailles avec des artistes aussi? Enfin, toi-même, t'es artiste. Est-ce que tu travailles avec d'autres artistes qui, justement, eux, en particulier les plus connus, évidemment, ont un impact sur les imaginaires?
En fait, aujourd'hui, c'est quoi? Je vais vous donner un exemple. À chaque année, il y a 99 albums de rap qui vont sortir en disant que le quartier, c'est la merde ou en dépeignant une vision négative de leur vieux quartier. 99 albums et moi la banlieue du Turfu je suis seul. Donc en fait il y a une bataille des imaginaires, il y a à la fois cohabitation des imaginaires mais bataille, donc moi je dois lutter entre guillemets contre tous ces artistes qui ont une vision négative.
C'est une vision ou ça leur permet de vendre aussi?
Ça leur permet de vendre. C'est pour ça que j'en ai pas parlé de ce que j'appelle le deal d'histoire sombre, c'est une économie du récit négatif qui permet aux banlieusards de percer à la fois dans le rap, mais dans différentes industries. Voilà. Ça, c'est un point, c'est un peu dur à entendre. C'est un peu dur à entendre, mais voilà, c'est nous vivons aujourd'hui. Les artistes vivent des récits négatifs pour percer dans le game. Donc c'est un combat difficile. Mais par contre, moi, s'il y a des grands artistes qui veulent collaborer avec moi, c'est le bienvenu. Mais bien sûr. Dans chaque atelier, en fait, j'invite des artistes, en fait. La plupart des ateliers de la banlieue du Turfu ont été faits en collaboration avec des artistes, comme Yanis, Syncritical, et bien d'autres. Donc, j'ai l'habitude de travailler avec des artistes qui veulent, que je rencontre sur Instagram ou dans la réalité. C'est pas Nino, c'est pas Niska, mais oui, j'ai l'habitude de faire des collabs.
Mais c'est vrai que, en fait, c'est assez intéressant quand tu dis, il y a le deal d'histoire sombre. Ouais. Donc, il y a un vrai truc de, je vais vendre des histoires sombres. Et de l'autre côté, en fait, c'est vachement intéressant parce que d'un côté, t'as le deal d'histoire sombre, pardon. Et de l'autre côté, t'as, les histoires sombres qui sont une bonne excuse pour ne pas avancer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Mais bien sûr, c'est-à-dire que c'est ce qu'en fait Nietzsche a théorisé dans Le Ressentiment ou dans Cynthia Fleury qui explique que la démocratie, Cynthia Fleury parle de ressentiment en démocratie. En fait, le ressentiment, le ressentiment, il est vrai dans le sens où tu vas remarquer que dans la société française, il y a des inégalités, il y a des injustices. Ça, c'est vrai, c'est pas faux. Mais ensuite, baser toute sa réflexion sur le ressentiment, ça développe une certaine nervosité, une certaine négativité, une vision négative du monde, en fait. Et de deux, en fait, ça permet aux gens de rester sur leur coussin psychologique et de se dire, ouais, en fait, c'est le monde qui part en couille, c'est le monde qui part en vrille, c'est pas moi, donc je fais rien. C'est une excuse, je suis désolé de le dire. Les histoires sombres sont un coussin psychologique, une excuse pour ne pas rentrer dans ce processus de bataille institutionnelle, de bataille philosophique, de combat imaginaire pour essayer de dépasser le statu quo du présent. Voilà, ça c'est... Mais je comprends que, parce qu'on me l'a déjà dit, mais Macron, mais... en fait, on me sort de la banlieue. Oui, mais vous êtes différent, vous. C'est toujours ce truc-là. Oui, mais vous êtes différent, vous. Mais pourquoi je suis différent? Non, je suis pas différent. Je suis un banlieusard qui essaye de faire des choses. Bien sûr, j'ai ma volonté. Bien sûr, il y a des problèmes systémiques. Mais entre les deux, il faut batailler pour que nous ne soyons pas emportés par ce business, cette économie de deal d'histoire sombre qui permet à une partie de la communauté de ne pas faire plus d'efforts que cela pour changer la réalité.
Merci beaucoup. C'est super parce que tu as tellement d'engagement. En fait, ça s'entend, tout simplement. Ce podcast s'appelle Vlan, donc j'aimerais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Ça veut dire quoi déjà?
Ouvrir ou claquer la porte, c'est... Bon, tu peux ouvrir ou claquer la porte à ce que tu veux. C'est des idées, des concepts, comme tu veux.
Alors, j'ouvre la porte. J'ouvre un vortex, un hypercube au marché de Saint-Ouen. Parce que quand j'étais petit, j'avais l'habitude de faire 2 heures de train pour aller au marché de Saint-Ouen et acheter mes baskets Nike et tout. Et c'est vraiment un lieu qui a marqué mon imaginaire. Et j'aimerais trop faire un truc turfuriste au marché de Saint-Ouen. Et
je rigole parce que moi, j'y ai passé tous mes week-ends. Hein, donc.
Ouais, franchement, ouais, bah, il y avait les sapes, les vêtements, les gens. Et j'allais avec mes potes, après on allait au grec et tout. Ouais, il y avait aussi des belles filles. Bref, c'est vraiment des beaux souvenirs que ouais, je prends toujours le présent, mais ensuite je le réactualise. Qu'est-ce que ça peut être un marché de Saint-Ouen du Turfu? Ça, c'est vraiment la porte ouverte. Et le Vlan, je ferme la porte à tous ces récits négatifs. Je ferme la porte à un certain type de cinéma et j'appelle les industries à penser vraiment à penser leurs récits, parce que quand tu développes un jeu comme GTA, tu te dis ah attends, je vais faire les quartiers de Los Angeles ou je ne sais pas où là. En fait, ça a un impact sur l'imaginaire des habitants, on se rend pas compte. Donc on vend des choses qui ont un impact très négatif sur les imaginaires des habitants, et j'invite les industries à penser de manière éthique au futur et aux images qu'ils produisent sur les banlieues de manière générale dans le monde.
Super. Merci beaucoup Macan.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.